Europe 1. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode.
David Patterson est mis en examen pour assassinat. Cela veut dire que les deux juges d'instruction pensent que David Patterson avait décidé de foncer sur la pizzeria, décidé de tuer des gens. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Je vois d'abord un homme qui a anticipé cette action.
François Mazon, avocat de la famille Yakov.
Il loue 3 jours avant une très grosse BMW récente qui fait 1,5 tonne. Il n'a aucune raison de louer cette voiture pour faire des courses, puisqu'à un moment, il a prétendu que c'était le cas.
On a cherché à faire de cette location d'un véhicule BMW une sorte de matérialisation d'un désir criminel.
Maître Éric Plouvier, avocat de David Patterson.
Mais ça ne marche pas, puisqu'on sait que Patterson aimait les voitures et avait des habitudes de location qui ne rencontrent pas donc le désir criminel, mais des habitudes de vie par rapport à des véhicules.
Le jour même où il loue, il va repérer les lieux, c'est-à-dire qu'il fait un tour autour de cette pizzeria. On sait qu'il va dire ensuite après qu'il savait que cette pizzeria, sa terrasse n'était pas protégée. On voit un moment quand il est arrêté à un feu, grâce notamment aux caméras de vidéosurveillance, qu'il fixe la pizzeria et pour ensuite ne pas y aller directement et faire ce grand détour. Donc tous ces éléments mis bout à bout démontrent la volonté prévue à l'avance de tuer.
Il ne voit pas sur la terrasse des gens en train de manger des pizzas. Il ne regarde pas devant lui. Il n'est même pas acquis qu'il a vu que c'était une pizzeria plutôt que la tour Eiffel ou un mur. Il est obsédé par son rétroviseur et les gens qui le poursuivent. Il est dans un cauchemar. Donc il ne veut pas tuer. Il ne veut pas faire du mal aux gens. Il veut se sauver d'une souffrance extrême qui est celle d'un malade. La seule chose qui était sa préoccupation obsédante pour lui, c'était de sortir de son délire paranoïaque, comme on cherche à sortir chacun d'un cauchemar. C'était sa logique, une logique de folie, une logique difficile à comprendre, mais c'était la sienne.
Code P27, expertise psychiatrique des docteurs Casanova et Ferrandi. Pour M. Patterson, il s'agit d'une altération du discernement en lien avec un vécu persécutif délirant. Mais il n'est pas possible de conclure à une abolition car les faits ne s'inscrivent pas dans un mécanisme d'automatisme mental. David Patterson voulait échapper à un poursuivant. Son discernement a donc été altéré.
Ce que David Patterson nous a dit, c'est ce que nous disent des centaines de sujets qu'on reçoit à l'hôpital. Pour nous, psychiatres, c'est la dimension pathologique ne fait strictement aucun doute.
Tous les psychiatres ont tous non seulement diagnostiqué cette maladie, cette psychose avec ce délire paranoïaque, mais tous ont considéré que sa liberté, sa conscience était entravée par cette maladie. Tous. Et cela entraîne, c'est pas automatique, c'est une décision de la justice, en principe une diminution de la peine. Mais malheureusement, l'expérience montre que la folie fait peur. Et la folie faisant peur, les juges professionnels, même les juges professionnels et les jurés, pensent que le meilleur moyen d'éviter cette peur, ayant refusé de plonger dans l'irrationnel, c'est de condamner plus lourdement.
La cour d'assises de Seine-et-Marne vient de le condamner à la peine maximale.
Oui, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en raison de l'exceptionnelle dangerosité de l'accusé, selon les mots du président de la cour d'assises. L'accusé qui n'a eu aucune réaction à l'énoncé de ce verdict. Dans la salle, un homme portant un t-shirt à l'effigie d'Angela, l'adolescente décédée, lève le poing. La mère de la victime, elle, a fondu en larmes. Pendant le procès, le conducteur a toujours dit qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. La préméditation a pourtant bien été retenue par les jurés, ce qu'a salué François François Mazon, l'avocat des parents de l'adolescente décédée.
Il n'a pas assumé ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, ce fameux sentiment de culpabilité que toutes les victimes ont exprimé, je pense qu'avec un verdict de ce niveau-là, on a clairement montré qui était coupable. Et c'est pas eux.
Dans des cas comme celui de David Paterson, face à un mur judiciaire où il n'existe aucune fenêtre pour faire entendre la raison et entendre qu'on doit soigner l'individu qui est face à soi, parce que c'est un archaïsme judiciaire terrible et terrifiant de penser que nos institutions ne peuvent pas digérer des cas comme celui de Paterson et rendre justice, c'est-à-dire en considérant qu'une personne a affaire avec des médecins, mais pas affaire avec la violence de l'incarcération.
Toujours, c'est très important, l'expertise psychiatrique, votre avis est essentiel, il faut éclairer la cour, mais que très souvent, on n'en tient absolument pas compte. Et en tant que citoyen, je peux le comprendre, quand les faits sont trop atroces et que vraiment c'est insupportable dans la réaction sociale, bah, on ne tient pas compte de ce qu'on dit, c'est tout, voilà, c'est comme ça.
Code B32. Expertise psychiatrique des docteurs Dubec et Zaguri. Plusieurs épreuves de vie de David Paterson ont pu entraîner le passage à l'acte et une décompensation. Le décès d'une tante, peu avant les faits, sa rupture sentimentale, le sentiment d'avoir été floué et l'arrêt du cannabis qui ont entraîné une flambée de son sentiment de persécution.
Je crois qu'il y a, dans son mobile, dans son intention, une volonté d'être quelqu'un. Et d'être quelqu'un en faisant... on peut être quelqu'un en battant un record de vitesse à la voile, on peut être quelqu'un en créant une société qui réussit, enfin, on peut être quelqu'un de plein de façons. Là, c'est la pire des façons. Il s'est toujours défendu de ça, et à l'audience en particulier. Mais je garde l'idée que ça peut être une des raisons pour lesquelles il a commis ça. Parce que, encore une fois, en dehors de ça, on voit pas très très bien quel est le rationnel derrière une telle action.
Docteur, j'étais perdu. J'avais perdu la raison, j'étais devenu fou. Aujourd'hui en prison, j'ai des médicaments, alors j'arrive mieux à réaliser ce que j'ai fait. Mais comprendre, c'était impossible. J'ai pas d'explication. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'observateur extérieur, ça peut être une énigme. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour le sujet lui-même, c'est dans une grande mesure une énigme. Il a lui-même ce sentiment d'étrangeté par rapport à ce qu'il a commis.
En première instance, David Paterson est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait appel et un an plus tard, il est rejugé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. Mesdames et messieurs, la cour, faites entrer l'accusé.
On est en plein confinement, c'est très particulier.
François Mazon, avocat de la famille Yakov.
On a tous des masques. Et David Paterson a un masque. Et c'est là où on se rend compte qu'un masque, on ne voit pas la personne.
Monsieur Paterson, nous avons échangé avec les jurés. Et nous aimerions toutes et tous que vous montriez votre visage. Pouvez-vous retirer votre masque quelques instants, s'il vous plaît ? Non ? J'ai pas envie.
J'ai pas envie parce que j'ai plus de dents en haut. Et puis voilà, je veux pas quoi.
Finalement, il va le faire. Et pour la première fois, on va le voir, on va vraiment voir son visage.
Quand on voit le portrait de David Paterson un peu avant les faits et le David Paterson aujourd'hui, il est physiquement complètement déformé.
Maître Éric Plouvier, avocat de David Paterson.
Il est méconnaissable. Il avait une apparence de 20 ans, de 20 ou 30 ans de plus qu'il n'a. Donc le phénomène du vieillissement a été probablement accru par l'isolement, par la chimie, et un être quasiment inintelligible, un peu dans la raison, plus qu'avant sans doute, mais dans cette fragilité qui était très apparente.
C'est un homme qui a plutôt la tendance à regarder le sol que à regarder les personnes qui sont dans la salle, et en particulier les victimes. C'est un homme qui fuit les questions directes, en tous les cas ne reconnaissant pas l'aspect prémédité de son geste.
Quand vous louez cette BMW, c'est dans quel but ? Aucun ? J'aime les bagnoles, donc je me fais plaisir. D'accord, mais dans ce cas, le soir des faits, pourquoi faites-vous plusieurs demi-tours devant la pizzeria avant de projeter le véhicule ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'étais fou, je voulais pas tuer.
Je ne suis pas certain que son regard sur les faits soit un regard lucide. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se resituer au jour des faits, à son passage à l'acte. J'ai l'impression qu'il est toujours dans une certaine confusion et avec son souci même de bien faire, puisque à la cour d'assises, il a essayé le plus sincèrement du monde d'essayer d'expliquer son comportement. Mais c'est très compliqué d'essayer de rationaliser un comportement irrationnel.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Voilà deux semaines que la cour d'assises de Seine-et-Marne tente de comprendre les motivations de David Paterson, ce vigile de 36 ans jugé pour l'assassinat d'une jeune fille de 13 ans. En août 2017, il avait lancé sa voiture sur la terrasse d'un restaurant. Ce matin, l'interrogatoire de l'accusé a enfin débuté, Justin Morin.
Oui, et l'accusé s'est cantonné à une réponse répétée à chaque fois qu'il a été mis en difficulté. J'ai été diagnostiqué paranoïaque. J'étais dans le flou, c'est le mot. J'étais dans la détresse. L'accusé parle d'une voix grave mais chevrotante, les mains tremblantes. Il suit un traitement psychiatrique lourd et ça se sent dans ses réponses fluctuantes. À un moment, son avocat l'a même coupé. Soyez direct, allez-y. Son client poursuit la tête baissée. Oui, j'ai foncé dans la pizzeria. Volontairement, précise le président. Oui. Il avoue que c'est un miracle s'il n'y a pas eu plus de morts, mais après avoir dit cela, il explique qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer, que ça n'était pas prémédité. Toujours ce flou, sa paranoïa pour se justifier. À chaque fois, la salle réagit, des chuchotements, des têtes qui se baissent, lassées, celle de la mère de l'adolescente décédée, de son frère, mais pas celle de son père. Il ne quitte pas des yeux celui qui est accusé d'avoir tué sa fille.
Lui, il a aucune émotion, vraiment aucune émotion. Et quand il essaye d'en avoir, c'est extrêmement vain, c'est pas naturel du tout. C'est très étonnant. Il est ce qu'il est. C'est une stratégie qui probablement il a choisie, qui est une stratégie où il se défile. Il ne reconnaît pas sa responsabilité. La seule explication et tentative de circonstances atténuantes qu'il essaye de définir, c'est que il était devenu fou. Il entendait des voix. C'est quelqu'un qui a compris, peut-être en lisant le code de procédure pénale ou le code de pénal, ou peut-être en échangeant avec ses avocats, que l'altération du discernement, c'est très bien. Et le fait qu'il n'y ait pas de préméditation, c'est très bien.
Monsieur le Président, je vous assure que je n'avais pas de dessein criminel qui a été formé à l'avance. Monsieur Paterson, je suis l'avocat de la partie civile. Je représente les parents d'Angela, cette petite fille de 13 ans que vous avez assassinée. Vous venez de répondre au président que vous n'aviez pas un dessein criminel formé à l'avance. Je pense qu'il n'y a pas un millième de citoyens français qui connaissent cette formule juridique très précise.
Quand on dit ça, c'est qu'on a lu l'article du code pénal et qu'on essaye, encore une fois, de démontrer qu'il n'y a pas de préméditation. Donc on est dans quelqu'un qui est un calculateur. Il a compris qu'il avait tout intérêt à ce que l'altération soit reconnue parce que ça diminuait la peine encourue.
Maître Mazon, vous avez la parole pour les parties civiles.
La seule fois où j'ai vu Sacha, le père, pleurer, c'est quand le médecin légiste a décrit les conséquences du choc subi par sa fille, avec des termes extrêmement durs à entendre, qui montraient l'extrême violence du choc. Une voiture d'une tonne 5 à 80 km/h en énergie, c'est considérable. C'est une bombe. Moi, j'ai dit à l'audience que c'est l'équivalent d'envoyer une bombe dans ce restaurant. Sacha Yakov, le père, qui est un homme extraordinaire, c'est un homme qui, la première fois que je le vois, quelques jours après les faits, qui me dit « Mais vous savez, maître, ma fille, je la voyais à mon bras sortir de l'église le jour de son mariage. Et je sais que ça n'arrivera jamais. » Et j'ai dit « Angela a été enfantée par l'amour de Betty et Sacha, ses parents. Elle a été désenfantée par la haine de David Paterson. Ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. »
On appelle les jurés de la cour d'assises de Seine-et-Marne reconnaissent l'altération du discernement de David Paterson au moment des faits. Mais elles le condamnent tout de même à la même peine qu'en première instance. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'était Au-delà te raconte, version code P, tous les vendredis et tous les samedis à 14h sur Europe 1 et en podcast dès 6h du matin. Comme toutes les histoires que je vous raconte. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui de Vincent Deby. Réalisation Mathieu Frette.
Retrouvez On-delà te raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.